Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Par les temps qui courent, ce soir, une heure d'entretien avec le musicien Joss Mieniel.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bouta, pépété, pépé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis va-t-il mal.
Romain de Bec de Lièvre.
Et c'est que le moment dans cet moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Borges décrit l'une de ses inventions, la bibliothèque de Babel, ainsi. Elle est totale et ses étagères consignent toutes les combinaisons possibles des 20 et quelques symboles orthographiques, c'est-à-dire tout ce qu'il est possible d'exprimer dans toutes les langues. Tout. L'histoire minutieuse de l'avenir, les autobiographies des archanges, le catalogue fidèle de la bibliothèque, des milliers et des milliers de catalogues mensongers, la démonstration de la fausseté de ces catalogues et la démonstration de la fausseté du catalogue véritable. Joss Mieniel, sur votre dernier album qui porte le titre « Babel », vous réunissez des musiciens de plusieurs parties du monde, les sons de vos flûtes se mêlent au oud, au sitar, à la contrebasse et aux percussions. C'est toute une géographie musicale qui se déploie, où les combinaisons sont multiples et les langages musicaux se répondent. Bonsoir Joss Mieniel.
Bonsoir.
Votre dernier album « Babel » est sorti sur le label Bouddha Music. Merci d'être là.
Merci.
Je vous propose qu'on commence par une évocation du mythe de Babel.
Borges pensait à l'idée de cette punition divine qui était celle de transformer une langue commune et unique en toutes les langues du monde, et qui, là, oui, il y a un mythe qui est profondément paradoxal, une punition qui nous donne en fait toutes les langues dans lesquelles nous communiquons et qui déclare par cette multiplicité l'ambiguïté du langage, mais aussi sa richesse. C'est une punition qui finalement a donné des très bons résultats, parce que toute la grande littérature que nous connaissons a comme point de départ cette création d'une infinité de langues.
Joss Mieniel, on écoute un extrait de votre album Babel, qui s'appelle Zulfikar, qui succède à une archive de Alberto Mengel, qui parle du mythe de Babel. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents instruments qu'on écoute là?
Ça a commencé par une sorte de dalap, comme on dit en musique indienne, c'est-à-dire une forme de présentation du mode, de la gamme, avec le joueur de sitar qui s'appelle Ashraf Sharif Khan, qui est originaire du Pakistan. La flûte traversière, donc ça c'est moi qui joue.
C'est votre flûte.
C'est la flûte alto en l'occurrence, parce que c'est plus proche du son des bandes-souris indiens que la flûte normale en ut qui est un peu plus aiguë, voilà. Donc j'ai choisi cette couleur-là. Et puis à cela s'ajoute du coup une percussion qui est jouée par un musicien italien. Donc je crois que c'est Derbuka là. Il y a aussi un genre de mandole, qui est un instrument avec des cordes métalliques doublées, et un joueur de oud, voilà, syrien. Et évidemment, un contrebassiste. Voilà.
Juste avant, on entendait la voix d'Alberto Mengel qui parle du mythe de Babel, et le mythe chez Borges notamment. Pourquoi ce titre-là est apparu, Babel ?
Il le dit très bien. Je trouve ça très intéressant, cet aspect de punition. Je trouve ça bien. C'est ce que je me suis toujours dit, moi, sur cette histoire de Babel évidemment. l'idée était simple, c'est-à-dire que j'ai imaginé ce répertoire, ce disque, comme je l'ai composé pour pouvoir être joué par n'importe quel musicien traditionnel sur cette planète. Transmis entièrement par oral, puisque la plupart de ce genre de musiciens ne lisent pas toujours la musique, encore qu'aujourd'hui les choses ont évolué, mais bon, je me suis dit que c'était aussi un petit challenge pour moi de le transmettre par oral, et du coup c'était un peu cette idée qu'on partagerait presque un langage commun sur des mélodies, mais aussi des modes qui seraient pas forcément territorialisés en termes de culture musicale, que ce soit syrienne, indienne ou je ne sais quoi, même d'Europe centrale, mais plutôt quelque chose qui appartienne un petit peu à un fond commun, enfin une sorte d'inconscient universel comme ça. Et j'ai composé cette musique en la reliant avec beaucoup de principes, de styles, de cultures que j'ai pu collecter depuis des années de passion pour l'ethnomusicologie. Et j'ai imaginé donc des morceaux comme ça que je n'arrivais pas forcément à situer dans un pays, et c'était très bien comme ça. Et pour les avoir expérimenté avec plein de musiciens sur la planète, je me suis aperçu que le même morceau pouvait vraiment appartenir à un territoire du Moyen-Orient, mais il pouvait aussi appartenir à un territoire de Corée du Sud, par exemple, pour certains qui l'avaient joué en Corée, ou d'Afrique, ou voilà. Et c'est très étonnant comme les musiciens peuvent réagir à ce genre de musique, parce qu'ils peuvent se l'accaparer. Je pense qu'il y a inconsciemment, j'ai mis des petites choses comme ça éparpillées dans chaque morceau de musique qui peuvent faire réagir ce genre de musicien, d'interprète, en tout cas.
Qu'est-ce que ça veut dire appartenir à un territoire pour une musique, selon vous ?
Justement, c'est compliqué, ça, parce que je me suis beaucoup posé cette question. Moi, je viens vraiment essentiellement du jazz. Je suis français, je suis né à Nantes, mais je suis plutôt normand. Et je me suis souvent posé cette question parce que quel était mon folklore à moi, ma musique traditionnelle en France, et enfin, depuis que je suis né. J'ai beaucoup écouté du jazz, donc je me suis beaucoup transposé dans cette culture-là, américaine, que j'aime beaucoup encore aujourd'hui et que je pratique beaucoup. Mais au fur et à mesure des années, je me suis aperçu que j'avais d'autres choses qui me tiraient vers le Brésil, beaucoup, vers le Moyen-Orient. Et puis, il y a quelques années, je me suis concentré sur un répertoire qui était les valses musettes. Et là, je me suis vraiment aperçu que c'était vraiment ma culture intrinsèque, qu'il y avait quelque chose comme ça dans mon ADN que j'entendais depuis toujours. J'avais les réflexes, j'avais les codes de cette musique, alors que je l'avais jamais joué avant. Et ça m'a fait du bien de me dire que c'était aussi ma musique à moi, ma musique de mon territoire, tout en pratiquant toutes les autres musiques de par le monde. Je pense que j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai grandi dans la musique classique comme n'importe quel étudiant d'instruments. Et puis après, je me suis baladé au fur et à mesure de mes voyages, de mes envies aussi, vers plein d'autres musiques. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose vraiment la question de quelle est la musique d'un territoire. Donc pour moi, c'est la musique de plein de territoires. Je vois pas forcément une musique française, même si j'ai quand même l'impression qu'il y a certaines musiques qui font partie de mon code d'acquis, on va dire, et un petit peu d'inné.
Comment s'est fait la rencontre avec les musiciens de cet album-là, Babel ?
Bah pour certains, il y a des années que je les connais, que j'ai joué avec eux. Certains, même, j'ai fait des études avec eux, comme le contrebassiste, par exemple. Et pour d'autres, j'ai travaillé pendant 10 ans dans des orchestres très différents, des compagnies, dans des projets très différents. Et puis, pour le musicien syrien et pakistanais, ils m'ont été conseillés par des musiciens qui font partie de l'orchestre. Je les connaissais pas auparavant. Je cherchais vraiment des gens habités par la poésie, par la profondeur musicale, plus que par des techniciens ou des musiciens extraordinairement brillants. Voilà, je cherchais vraiment une âme dans chaque instrument. Je les ai trouvés vraiment, et je suis très très content d'avoir croisé leur route. Et ça, c'est une belle aventure qui commence. Et ça s'est fait très naturellement, en fait, de cette manière-là, dans un contact d'abord très très humain, avant de partager de la musique. Voilà.
Et dans ce projet, il y avait l'idée de réunir un orchestre inédit. Enfin, de créer une formation qui n'existe nulle part ailleurs.
Ouais, c'est vraiment cette idée d'avoir, je vais pas dire créer une nomenclature, mais créer une orchestration très inhabituelle déjà sur scène. Le sitar, c'est vraiment une culture très indienne. C'est vraiment un son qui se, qui, que dès qu'on rentre dans la chair de l'instrument, on l'a entendu tout à l'heure dans l'introduction, on est vraiment dans un coin de la planète pour le coup. Vous disiez, est-ce que vraiment il y a une musique d'un territoire? Mais pour le coup, cet instrument, il est vraiment territorialisé. Nord de l'Inde, Pendjab, Pakistan, enfin Népal, c'est vraiment ce coin de la planète. Donc j'ai beaucoup hésité avant de le mettre parce que c'est très compliqué à mélanger. Enfin, d'après moi, c'était compliqué. Aujourd'hui, je me rends compte que ça ne l'est plus. Et je me suis dit que la seule manière de bien le mélanger, c'était d'associer beaucoup de cordes avec lui et d'en trouver des doublures, une orchestration et un mélange comme ça. Donc j'ai associé le oud, et il se trouve aussi que c'est un joueur de kanoun, un instrument génial qu'on joue avec les doigts comme une table d'harmonie, plus le mandol qui est aussi des cordes, qui sont des cordes métalliques et qui vont rentrer en résonance. Ça va faire une sorte de triangle un peu isocèle entre les cordes métalliques de sitar et les cordes qui ne sont pas métalliques du oud. Et je trouve vraiment un intermédiaire. En plus, c'est un instrument rythmique, et ça fait un petit peu le mélange entre les deux mondes, Moyen-Orient et Inde. Et ça, c'est très important. Je ne m'en étais pas rendu compte. Je l'avais imaginé dans ma tête, mais au moment de le pratiquer comme ça, je me suis dit, ah oui, mais ça, c'est vraiment le lien entre les deux instruments qui sont quand même très, très différents.
Vous parliez de transmission orale tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une musique qui n'est pas écrite et qui donc se fait comme ça par oral avec les musiciens. Mais pourtant c'est des gens qui viennent de pays différents, et donc est-ce qu'il y avait eu un problème de la langue pour communiquer justement?
Non, parce que pour la plupart ils sont résidents en France depuis longtemps, à part le musicien pakistanais qui habite en Allemagne. Et c'est pareil parce que ce sont des gens qui quand même tournent beaucoup depuis des années, c'est quand même des grands musiciens. Et on a un petit peu parlé, mais beaucoup joué. En fait,
par la pratique que ça passe.
C'est par la pratique. C'est justement, c'est bien aussi pour ça que je l'ai appelé Babel. C'est que je pense que c'est dans l'imitation. En fait, je leur propose une mélodie. Il la rejoue derrière moi. On la joue pendant de nombreuses minutes, des fois longtemps, très ralenti, puis accéléré, et on répète comme ça. C'est comme dans l'apprentissage d'une langue, hein, finalement. C'est exactement pareil. Et il y a des intonations. Il y a des ornementations, il y a des justesses, il y a plein de choses qui se jouent. C'est comme dans la langue, les accents toniques ou des choses comme ça. J'étais en Chine encore là au mois de juin, et je m'apercevais à quel point le même mot avec le même accent tonique en haut, en bas ou au centre était complètement différent au niveau du sens. Bah, la musique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, déjà, il y a une histoire de tempo, il y a une histoire de dynamique et il y a une histoire d'intonation. Et ils m'ont aussi fait changer ma manière de voir la musique que j'avais écrite avec leur intonation. Et aujourd'hui, on la joue différemment que moi, je l'avais composée.
Vous avez parlé de l'ethnomusicologie tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette connaissance-là?
Pour moi, je trouve que c'est le point principal de mon travail sur la flûte traversière. Enfin, sur la flûte, voilà. Sur les flûtes, parce que j'en pratique beaucoup dans cet album, j'en joue plus d'une, en gros une douzaine, mais j'en ai une cinquantaine chez moi qui viennent de tous les pays du monde. Je pense que c'est vraiment la flûte est le point commun à toutes les cultures. Je pense que c'est l'un des plus vieux instruments avec la voix et la percussion. Donc pour moi, c'était très important d'aller chercher des informations sur l'histoire de mon instrument dans cette musique de l'ethnomusicologie, dans cette pratique, pardon, de l'ethnomusicologie, pour aller chercher des valeurs aussi, des modes de jeu, des émotions, des intonations, j'en parlais tout à l'heure. Et au fur et à mesure que je commençais à rentrer dans cette musique, je me suis aperçu d'un truc assez fort, c'est-à-dire comme ce sont des musiques souvent qui sont liées à des actes du quotidien, ce sont des musiques très anciennes, qui sont liées à la sociabilité, en fait, hein,
De la musique pure,
qui sont pas de la musique, qui sont pas des postures artistiques. Et du coup, moi je n'ai jamais d'avis sur cette musique. J'arrive pas à poser un avis comme quand je vais à un concert de jazz, de musique classique, de musique électro, qui sont souvent des postures artistiques. Cette musique n'a pas de posture artistique, donc j'arrive pas à avoir d'avis. C'est pas j'aime ou j'aime pas, par contre, je ressens des vibrations. Et ça me raconte plus des histoires. Et c'est presque un peu chamanique. Et c'est ça qui, d'un seul coup, qui m'a un petit peu intéressé. Parce qu'il y avait quelque chose de vibratoire. Beaucoup plus que d'artistique, de posture artistique.
Est-ce que pour vous, la musique est dans cette dimension-là d'ancrage territorial à la fois et de le fait qu'elle soit liée à des pratiques quotidiennes notamment, ça devient un instrument de connaissance, un instrument de savoir, la musique? Une manière de connaître, en tout cas.
C'est moi, ouais, je une manière de connaître, peut-être de connaître son histoire, parce que je pense que les choses se sont beaucoup transmises par la musique. On le voit même, par exemple, au Mali, j'ai fait un programme sur la musique d'Ali Farka Touré et j'ai découvert aussi tout l'enseignement du chant griot qui transmet toute l'histoire des familles, des grandes familles, mais l'histoire du pays aussi. Il y a ça, il y a une protection aussi dans le rôle du chaman qui joue un rôle de protecteur, mais aussi de transmission. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la connaissance qui se passe par là. Et un petit peu inconsciemment, j'ai l'impression, moi, que quand je travaille ma flûte, que je dois transmettre quelque chose, justement. Mais je sais pas quoi. C'est très compliqué à savoir. Il y a un aspect d'inconscient, comme ça, collectif, qui aussi, qui me concerne, mais qui concerne aussi tout le monde. Et je pense que, la musique a ce rôle-là. Des fois, on l'a un petit peu oublié dans nos sociétés modernes, très très esthétisées, très une musique très produite où on corrige beaucoup de choses sur les disques aujourd'hui. Mais je pense que si on corrigeait moins, il y aurait beaucoup plus de messages qui passeraient, voilà. Parce qu'il y a quelque chose du naturel comme ça dans une prise, et au bout de la cinquième prise, il y a un petit peu moins de naturel. Voilà. Et moi, je crois beaucoup à cette immédiateté, cette fraîcheur aussi sur les choses, parce que en général, elle est pas contenue, elle est pas réfléchie, elle est pas maîtrisée. Et donc, il y a quelque chose de généreux et de naturel qui passe.
Quand on improvise, ce qui est mon cas, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. On joue, mais on ne sait pas la suite. On est dans l'incertitude, dans l'improviste, dans l'impropre. On n'est pas dans la logique. On n'est sûrement pas dans le goût. Jusqu'où ça commence? Parce que partout dans l'éducation, on nous dit surtout jusqu'où on l'arrête. Avant, pendant, après, à peu près... À peu de frais, à frais de près, on peut jouer avec les mots, quoi, les mots zik. Parce que les mots aussi, c'est de la musique. Donc elle est partout, cette musique, dans la rue, dans les bruits de couloir, dans les mots, dans la langue, dans les langues, dans les accents. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas, parce que c'est énorme, quoi. On essaie d'attraper un peu comme ça le monde en réduction. C'est pour ça qu'on improvise. Je pense que c'est pour ça que le jazz s'est mis à exister, parce que un jour, il y a un musicien, il a dû ouvrir une porte comme ça, c'est-à-dire, tiens, je sais pas ce que je fais. Parce qu'avant, il fallait qu'on sache. Jusque-là, la musique, ça s'interprétait. Et puis, depuis le jazz, ça s'est mis à s'improviser, à se s'oraliser, finalement.
Jasmine Niel, on entend une archive, là, c'est la voix de Bernard Lubat qui parle de l'improvisation, une archive de France Culture en 2011. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Oui, parce qu'on est souvent d'accord avec Bernard Lubat quand il parle d'improvisation. C'est quand même un grand maître de ça. Et puis c'est marrant parce qu'il joue toujours sur les mots. Alors, et c'est ça que j'aime bien, parce qu'il y a plein de sens. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec André Mainviel aussi, qui l'a beaucoup côtoyé, et j'ai beaucoup parlé de musique avec André. Et c'est pareil, il joue beaucoup sur les mots, il les coupe en deux. Donc là, il parle d'impro, improviste, mais ça pourrait vite terminer en impro vite, c'est vrai. Et il parle de impropre, voilà. Et c'est un... Quand il dit ça, il y a quelque chose aussi de... Il y a plein de sens derrière ça. Moi, je suis assez d'accord là-dessus, parce que... l'improvisation, on réfléchit pas. Il y a un truc dans le lâcher prise comme ça qui est intéressant, et surtout c'est vraiment le royaume de l'impolitesse, parce que quand il y a trop de politesse en improvisation, c'est foutu. C'est là que ça commence à cafouiller. On s'écoute trop, on se respecte trop, et du coup il y a un moment donné où on se perd là-dedans. Alors qu'il faut vraiment laisser un petit peu l'enfant intérieur s'exprimer sans filtre. Il y a quelque chose d'immédiat qui passe, et c'est certainement à ces moments-là qu'on trouve quelque chose de juste, sans vraiment maîtriser les choses, sans savoir. Et on parlait de ça sur les musiques traditionnelles. Il y a vraiment cette chose où, au fur et à mesure des jours et d'accompagner des actes, que ce soit la chasse, que ce soit un repas, que ce soit une fête, et des choses qui se transforment, qui se font sans maîtrise. Et moi, je pense que les meilleurs moments que j'ai pu passer sur scène, c'est un moment donné où je maîtrisais plus ce que je faisais. C'est-à-dire que j'étais dans une sorte de moment présent où j'entendais vraiment tout ce qui m'entourait. Et il parle à un moment donné aussi du bruit extérieur. Moi, j'aime beaucoup cette inspiration du bruit de la ville. J'ai travaillé sur un spectacle en solo que je tourne encore aujourd'hui avec de l'image, et ça s'appelle Dans la forêt. Et c'est vraiment le lien entre la forêt urbaine, la forêt végétale, et je m'inspire un petit peu des deux, parce que les deux sont très inspirants pour un flûtiste comme moi, que ce soit les oiseaux, que ce soit les bruits de la nature, mais aussi le bruit des pressions d'une usine, de voitures, de crissements, de saturation. Ça, j'aime beaucoup travailler sur mon instrument avec des pressions de souffle, avec des bruits de clé, ou hurler dans la flûte, chanter, enfin faire des doubles sons, qui font aussi partie de l'apprentissage de cet instrument qui, des fois, reproduit des animaux. La tradition de la flûte Peul, par exemple, dans les pays mandingues, c'est ils chantent en même temps, ils crient en même temps, des notes, des mots, ils imitent des animaux. Enfin, il y a quelque chose de très brut comme ça. Et ça me plaît beaucoup. C'est parce que finalement, c'est ça la musique. Enfin, notre instrument, par exemple, c'est vraiment une sorte de transcription de tout ce qui peut nous entourer, quoi.
Dans votre formation de jazz, vous avez été amené à improviser. Est-ce qu'il y a eu un pont qui s'est tissé justement dans la conception de cet album entre la place de l'improvisation dans le jazz et celle de l'improvisation dans les musiques traditionnelles ?
Oui, alors cet album, je l'ai un petit peu conçu quand même comme si j'avais créé des morceaux de jazz, dans le sens, il y a une mélodie, il y a une impro après, et des fois il y a le retour à la mélodie à la fin du morceau. Ce qui est pas toujours le cas dans les musiques traditionnelles, qui sont des fois même des musiques qui sont des grandes mélopées, on va dire, et qui sont jouées par des grands orchestres et qui se répondent comme ça. Mais il n'y a pas toujours une improvisation. C'est souvent ces musiques-là sur lesquelles j'ai du mal à jouer comme ça au dernier moment, quand je me balade et tout ça, parce qu'il y a énormément de codes. Mais il y a des musiques qui font une plus grande part à l'improvisation. Par exemple, la musique indienne, c'est vraiment des musiques de solistes. La musique coréenne aussi, c'est beaucoup ça. Il y a d'autres musiques qui sont plus compliquées, les musiques arabo-andalouses. Là, il faut vraiment avoir les mélodies en tête, faut pouvoir les connaître, et c'est de la répétition, c'est des choses comme ça. Il y a évidemment quelques parties d'improvisation, il y a de l'ornementation, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais du coup, cet album, je l'ai imaginé comme un jazzman pour pouvoir avoir le plaisir d'improviser, et les autres aussi, de leur laisser le plaisir aussi d'improviser. Et justement, qu'il se passe quelque chose dont on parlait tout à l'heure autour de ce que disait Bernard Lubin.
Et justement, dans la conception des morceaux, parce qu'un morceau, ça doit avoir un début, un milieu, une fin. Comment ça s'est passé, ça, le découpage?
Très souvent, c'est justement donc une mélodie, des passages d'improvisateur, et puis une mélodie qui revient à la fin et ça se termine. Mais pas que, il y a aussi, j'ai eu envie de le découper, parce que moi j'aime beaucoup la musique progressive. Je viens beaucoup de Robert Wyatt, de Soft Machine, de King Crimson et j'en passe. J'ai été vraiment nourri à ça pendant une époque de ma vie, et donc j'aime bien les choses qui reviennent jamais en arrière. Donc des formes A, B, C, D, mais sans jamais revenir à A, parce que la forme des morceaux de jazz, souvent, c'est A, A, B, A, on va dire, hein, un couplet, couplet, refrain, couplet, comme on a aussi dans la tradition de la chanson française. Mais là, dans certains morceaux, j'ai voulu avancer et jamais revenir en arrière. Donc d'un seul coup, il y a une deuxième partie, puis une troisième partie. Et en particulier, un morceau que je joue seul, et puis d'un seul coup, ça se transforme avec l'arrivée de tous les autres musiciens. Donc j'ai un petit peu mélangé et brouillé les pistes là-dedans volontairement.
Est-ce que ces langages musicaux différents, que ce soit celui de la musique traditionnelle indienne ou celle qui vient plus davantage du Moyen-Orient et le jazz par exemple, vous les voyez comme des grammaires différentes ?
Des conjugaisons différentes, ça c'est sûr. Des grammaires, oui peut-être. Je me suis jamais vraiment posé cette question, mais quand j'étais au Conservatoire supérieur de musique de Paris, j'étais en jazz, donc je suis rentré en jazz et musique improvisée, et il y avait une option, il y avait un professeur que tout le monde convoitait, qui s'appelait Patrick Moutal, qui est un grand spécialiste de la musique indienne, et donc qui nous donnait des cours, donc en option, moi j'avais choisi ça, en musique indienne, et je me suis exactement dit qu'on était dans la même dimension, quoi. Donc la grammaire, oui, on peut en parler de ça.
Est-ce que c'est quelque chose qui a pu relever, comme dans l'extrait de Borges que je lisais en introduction, de combinaison ? C'est-à-dire un mécanisme de combinatoire. C'est-à-dire, il y a cet instrument-là, si on ajoute ça et ça, enfin, de tester même empiriquement la manière dont les instruments peuvent dialoguer, se conjuguer.
Ouais, alors je l'ai beaucoup fait dans ma tête en amont. parce que quand on a monté ce programme, j'avais assez peu de temps. J'avais 3 jours pour leur enseigner un concert entier de musique. Donc c'est aussi comme ça que je pratique les musiques qui sont plus en lien avec le jazz ou les musiques que je compose en amont, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un travail que je réfléchis en amont et que sur le moment, d'un seul coup, on pratique. Mais en effet, j'ai imaginé les combinaisons. J'ai mis du temps à les imaginer. Et la plupart ont marché, heureusement. Mais ça prouve aussi que c'est un peu des années aussi d'expérience et de pratique aussi avec ces instruments traditionnels que je connaissais par ailleurs individuellement, mais que j'avais jamais réunis ensemble. Donc, mais j'ai été, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais frappé par le lien entre guillemets que pouvait avoir l'instrument qui est la mandole, qui est un instrument rythmique qu'on trouve souvent en Algérie, mais aussi sur les bords de la Méditerranée en Europe centrale, qui fait le lien justement entre la musique plutôt indo-persane et le Moyen-Orient et aussi notre partie musicale européenne, parce que c'est pas un instrument qui se joue avec des quarts de ton par exemple ou des choses comme ça, donc ça a fait un petit peu le lien entre tout ça.
Je pense que ce qu'on met en œuvre le plus, c'est la résonance intérieure. C'est comme pour la voix, le son est bien sûr généré au biseau, dans le trou d'embouchure de la flûte, mais la flûte elle-même forme un résonateur, mais notre corps aussi. Et il s'agit bien sûr de réunir ces deux résonateurs, ces deux corps de résonance, et de faire résonner l'air qui est à l'intérieur. Et au fond, c'est ça le plus grand travail. Et puis de ne pas gêner le son. Donc de laisser arriver un son, un peu comme on parle. Quand on parle, on n'est pas conscient du fait qu'on utilise de l'air, heureusement. Sinon, on crie peut-être. Quand je joue, je ne vais pas être conscient d'utiliser de l'air non plus. Je ne souffle pas. Je ne souffre pas non plus d'ailleurs, d'habitude. Et c'est donc cette douceur, si on veut, qu'on peut avoir dans une voix, mais aussi la clarté, parce que avec l'articulation, avec les consonnes, la voix est articulée, la voix est compartimentée, on pourrait presque dire. On reconnaît des syllabes, des mots, des phrases. Et donc c'est cet équilibre-là qu'il faut chercher tout le temps. Mais en effet, l'absence de mécanique fait que tout cela doit se passer à l'intérieur de nous-mêmes. Et les éléments de mécanique qu'on a, les lèvres, les doigts, la langue, au fond, ne sont pas très importants. Ils sont nécessaires, mais ce n'est jamais de cela qu'il s'agit.
Par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre avec Joss Mignel.
Jasmine Niel, on écoute un nouvel extrait de Babel, votre album qui s'appelle La Hymne des Quatre Vents, c'est le premier titre de l'album, qui succède à une archive d'un musicien, d'un flûtiste qui s'appelle Bartold Kuyken sur France Musique en 2012, où il dit qu'il perçoit la flûte, lui, et le fait de jouer de la flûte comme deux résonateurs mis ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle?
Bah complètement, c'est très intéressant ce qu'il dit parce que... moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Alors, il se trouve que j'ai l'impression qu'il parle du recorder, enfin d'une flûte à bec. J'ai l'impression que j'entendais ça du bout de ses lèvres et puis même en arrière-fond. Donc ça, c'est un instrument différent du mien parce que moi, je pratique la flûte traversière qui est une perce ouverte. Donc lui, il ferme complètement l'embouchure, on va dire. Moi, le fait que j'ai une perce ouverte, je peux encore faire plus résonner mon corps. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup mon souffle. Comme un ney en fait, puisque c'est quand même l'origine de la flûte, c'est ça, c'est un ney, donc on entend énormément de souffle dedans, et lui il n'a pas de clé, mais moi j'en ai, parce que c'est un instrument très moderne. Et pour avoir beaucoup joué avec des musiciens, d'autres flûtistes traditionnels de par le monde, au Mali, mais aussi en Corée du Sud, et en particulier avec un flûtiste qui s'appelle Aramli en Corée du Sud, qui a un instrument en roseau qui s'appelle le Degon, voilà, c'est un instrument traditionnel, ils n'ont pas de clé non plus. Et on a beaucoup travaillé sur cette question parce que moi je trouve que il parlait de l'air tout à l'heure quand on parle. Moi, dans ma manière de jouer la flûte, je trouve que c'est très important. C'est un instrument à vent. Je trouve que c'est très important de faire entendre l'air, de trouver un résonateur dans la bouche. Donc il parlait de ça aussi. De la même manière qu'une guimbarde ou des choses comme ça, c'est un amplificateur, cette gorge, cette bouche. Et du coup, je m'en sers quand je joue des notes pour aussi faire des bruits de souffle qui résonnent ou des bruits de clés pour faire des percussions. Et du coup, de plus du tout faire des notes à ce moment-là. Mais ça, c'est juste des sons parasites, mais que je trouve complètement la définition même de la flûte. Et avec mon ami coréen du Sud, on a réfléchi là-dessus. Il était très frustré de pas avoir de clé pour pouvoir faire comme moi. Il en a fait rajouter une sur son instrument quand il est revenu un an plus tard à Paris. Et il commençait à jouer dessus et il cherchait des techniques aussi de souffle et tout ça. Et je trouvais ça très intéressant de confronter un instrument moderne à un instrument très ancien et de voir à quel point justement la communication entre deux cultures pouvait faire aussi évoluer les instruments. Parce que c'est quand même ça aussi l'histoire de nos instruments. Nos flûtes, nos clarinettes qu'on joue en Europe, qui sont des systèmes Böhm, qui datent plutôt du 19e siècle, n'étaient pas du tout comme ça avant, puisqu'il y avait des traversos, même en flûte traversière, il n'y avait pas de clé. Les choses évoluent, mais faut... Je pense, à mon avis, utiliser justement le progrès, l'évolution pour le rendre musical. Et moi, on m'a toujours évidemment instruit en école de flûte qu'il fallait aucun souffle, qu'il fallait aucun bruit de clé et tout ça. Et je n'ai eu de cesse que de détourner cet enseignement depuis des années maintenant.
Pour vous, vous faites une vraie distinction entre justement la note et le son. Vous diriez que vous faites davantage une musique de son qu'une musique de note?
Ben la note, on l'aperçoit, le son, il y a toujours une note dans le son, mais des fois on peut pas le percevoir, il faut des outils comme des micros ou d'autres choses. Mais il y a toujours une note dans n'importe quel son, et d'ailleurs il y a plein de gens qui ont l'oreille absolue, qui entendent évidemment des notes que moi j'arrive pas à percevoir. Mais il y a toujours, pour moi c'est pareil en fait, je trouve que enfin je joue tellement avec les sons et les notes à la fois mélangées, des fois j'ai une note, des fois je fais un bruit avec la bouche avec les clés. J'ai mélangé les deux en fait, pour moi c'est une sorte de c'est une mayonnaise quoi, ça a pris et je fais plus la différence entre les deux. Ça, il y a encore quelques années je faisais, mais maintenant ça s'est complètement mélangé, c'est la même chose pour moi.
Dans l'archive qu'on a entendu, il dit aussi qu'il faut laisser faire le son. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle aussi?
Ah ouais, je pense qu'il a tout à fait raison là-dessus. Je pense que le son peut vivre aussi laisser son empreinte en fonction du lieu où il est. Évidemment, il y a toujours des pièces. Là, on est dans un endroit très 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 mat, mais il y a des endroits évidemment beaucoup plus résonnants, par exemple dans des acoustiques de basilique, de chapelle, d'église ou autre. Le son, le même son, va prendre vraiment une dimension autre et on l'émet et on voit ce qui se passe. Et ça, c'est vachement intéressant que ce soit pour une note ou pour un son d'ailleurs, parce que ça a la même force, quoi.
Dans le fait qu'on entende beaucoup votre souffle dans cet album, est-ce que vous diriez que votre instrument et votre rapport à l'instrument devient aussi intime que le rapport qu'on pourrait avoir avec une langue maternelle?
Oui, je pense, parce que J'aime bien aussi cette idée de pouvoir, avec un instrument de musique, jouer d'une manière tellement douce et délicate qu'on puisse susurrer quelque chose à l'oreille. Je suis un grand fan de Chet Baker, et je pense que c'est la force de ce poète du jazz, c'est justement qu'on a l'impression qu'il nous susurre quelque chose à l'oreille à chaque fois qu'il joue de la trompette, qui est quand même pas un instrument délicat par définition, et pourtant lui il arrive à le faire, ou quand il chante, c'est-à-dire que c'est la même chose en fait. Donc c'est sa langue, je pense qu'il y a une histoire à raconter comme ça. Par la douceur de l'émission du son, par la manière de raconter l'histoire, et donc de transmettre une langue, de transmettre un message, quelque chose, une information. Voilà.
Avec les musiciens avec lesquels vous avez travaillé pour cet album, est-ce que vous avez pu justement observer des rapports avec les instruments singuliers ?
Oui, il y en a beaucoup, et en particulier avec le sitar, parce que en fait, dans la résonance justement des sons, ce genre d'instrument ayant des cordes sympathiques qui résonnent dès qu'il y a une autre corde qui est jouée, donc je crois qu'il y en a 14 ou quelque chose comme ça, plus il y a 3 ou 4 cordes de base qui sont harmonisées sur la gamme, et ils jouent sur une seule corde en fait. Donc la longueur de son, la profondeur, le sustain, la résonance est tellement plus longue, par exemple, qu'un oud, ou que ma flûte, ou si j'arrête de jouer, il se passe plus rien. Lui, il émet un son, et du coup, il joue énormément sur les intonations et la longueur de résonance. Et toute l'émotion, et j'avais vu ça en Corée du Sud aussi, le public réagit vraiment à la toute fin, quand le son se termine complètement. C'est-à-dire, nous, on va tout de suite applaudir dès qu'il va y avoir une phrase très très belle, très très lyrique, mais eux, ils vont attendre vraiment la fin du son, qui est très longue. Des fois, ça dure 10 secondes sur des instruments comme le komongo ou je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Il y a toute une famille d'instruments qui ressemblent un peu à des koto, et ils vont ressentir d'un seul coup le râle du public va faire ah, mais c'est à la toute fin du son. Et moi, et à chaque fois, j'apprends ça dans les concerts de Babel avec ce musicien indien, parce que je trouve ça, c'est toujours très très étonnant cette relation qu'on peut avoir avec cette longueur de son, quoi, qu'on n'a pas forcément ici.
Jocelyne Niel, on écoute un nouvel extrait de votre album Babel qui s'appelle Tsahel, celui-là. Comment vous avez choisi les titres ?
Ah, les titres. C'est toujours une question qu'on me pose, ça. Comme ça, naturellement, sans trop réfléchir. Alors certains sont reliés à des choses que j'aime beaucoup. Il y a un titre qui s'appelle Baïkal, par exemple, qui est évidemment en lien avec l'univers du lac Baïkal. Et puis d'autres qui sont des... C'est plutôt dans cet album, il y a plein de morceaux qui sont sur des sonorités que j'aime bien, mais qui veulent rien dire, en fait. Voilà. C'est un peu aussi l'idée de pas...
donner pas trop de sens.
Voilà, et de territoire aux musiques aussi, voilà.
C'est un album où on entend, et notamment dans ce morceau-là, quelque chose que moi j'ai perçu comme de la fête. Est-ce que ça faisait partie aussi de ce projet-là ?
Bien sûr. Et en fait, c'est vraiment la dimension que je voulais apporter aussi. Et c'est ce que c'est ce qui se passe vraiment pendant les concerts. C'est que vraiment, les gens terminent debout. Certains se laissent porter par la danse, d'autres applaudissent et tout. Et moi, je les encourage à ça aussi en le faisant un peu. Et on est très, très, très contents de jouer sur scène ensemble. Et il y a ce truc de fête, de cérémonie, de quelque chose de très, de très joyeux, quoi. Il y a un truc que j'ai envie de transmettre. J'aime beaucoup ce genre d'émotion sur scène et en musique. Donc, c'était important pour moi, ça.
Il y a même des morceaux où on entend des voix qui relancent la musique, qui relancent la rythmique. Comme si c'était aussi un concert enregistré d'une certaine manière.
Sur des percussions, exactement, ouais. Quand il y a des passages de percussions, parce que c'est souvent des choses qui se passent dans plein de pratiques de ce genre de choses. Moi, j'ai assisté à des moments incroyables au nord du Maroc, là, vers Oujda, chez des nomades sédentaires dans le désert, là, vers Figig, et ils étaient il y a des moments de percussion où ça tape vraiment très fort, ça crie et tout. J'aime bien cette émotion que ça transmet par la force aussi du contact, du cri, et puis il y a ça dans tellement de musique finalement. Et faut surtout pas s'interdire de le faire, vraiment pas.
Puis c'est surtout l'idée que ce que transmet la musique là, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une énergie et qui atteint le corps du spectateur aussi et qui peut éventuellement le mettre en mouvement.
Carrément. Et puis je pense que, enfin moi je défends aussi le rapport au corps évidemment par mon instrument, mais aussi les musiques populaires. Je travaille dessus depuis des années parce que je trouve que c'est quelque chose, c'est un sujet fascinant pour même quelqu'un qui vient du conservatoire, qui a un parcours classique comme moi. Et ma formation qui vient du jazz, c'est quand même la musique la plus populaire qu'on puisse connaître, qui s'est fait dans les bas-fonds de la Nouvelle-Orléans, comme plein d'autres musiques, comme le rebetiko, comme plein de choses comme ça. Et du coup on peut pas couper la partie du corps. On peut pas couper l'émotion. Quand je fais le programme sur Ali Farka Touré, là, qui s'appelle Jour de blues à Bamako, la chanteuse avec qui j'échange dans cet orchestre, qui est malienne, qui est griotte, il y a des moments où elle peut pas s'empêcher de se lever de sa chaise et d'aller danser au centre. Ça fait partie de ça, et je suis très content de le voir. Nous, on a pas toujours le naturel pour faire ce genre de choses. C'est dommage, mais j'aime bien quand ça se passe, parce que je trouve que ça fédère énormément d'énergie, ça.
Il y a une époque où, assez reculé, je pense, il y a 30 ou 40 ans, on parlait beaucoup du phénomène de world music. Comment vous le percevez, vous ?
Bah, la world music, c'est évidemment, je suis comme plein de gens, pas tous heureusement, mais je suis pas fan du mot world music, mais en même temps,
Est-ce qu'il veut rien dire ?
Ouais, en même temps, ça veut rien dire, mais. C'est plutôt le mot fusion, en fait, qu'on pourrait utiliser, qui est d'ailleurs utilisé. J'ai plein d'amis africains qui aiment bien mélanger leur musique traditionnelle avec des instruments modernes, parce que pour eux c'est très important. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce musicien coréen du Sud. La fusion, elle est très importante. C'est ça qui fait continuer à vivre des traditions, parce que si c'est pas mélangé, si la musique se mélange pas, des fois ça meurt un petit peu, et il y a de moins en moins de gens qui transmettent, ça s'étiole, et il y a même certains instruments qui disparaissent parce qu'il n'y a plus la pratique de ça. Donc le fait de la mélanger avec toutes les autres musiques du monde et de rendre la chose mondiale, justement, alors à l'heure d'internet c'est beaucoup plus simple, mais ça permet aussi de continuer à donner une vie, et c'est pas du tout justement c'est pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il faut garder les valeurs, les traditions, les choses bien fermées, bien cachetées. Mais c'est pas ça, en fait, en réalité. C'est même l'inverse, et ça fait une vraie évolution de faire se rencontrer certains instruments, de les rendre électriques, de pouvoir les montrer sur des scènes, dans des endroits où normalement on les montre pas. Et ça fait vachement évoluer ça. Enfin, le premier exemple, ça a aussi été les Beatles avec Ravi Shankar, et la manière de concevoir la batterie de Ringo Starr, ou même les guitares de George Harrison, ça a énormément apporté à la modernité et à l'érudition des musiciens de rock. Les batteries de Ringo Starr, c'est vraiment il y a plein d'appels qui sont des TI, qui sont des choses qu'on utilise en musique indienne et que tous les batteurs utilisent aujourd'hui sans même savoir que ça vient de là. Et donc c'est de la world music à ce moment-là, mais toutes les musiques sont de la world music finalement, et même les musiques anciennes, baroques ou autre chose, ou qui viennent du voyage en Italie, le fameux voyage en Italie ou des choses comme ça. Bon, on s'inspire tous de plein de choses comme ça. Donc bon, le mot world music, c'est bien pratique pour mettre dans des catégories de disques, mais c'est pas un gros mot du tout. Voilà.
Ce serait plus vous, Babel, vous le percevez plus comme un laboratoire que comme un conservatoire.
Ah oui, moi, le conservatoire, c'est derrière moi. Maintenant, c'est que du laboratoire. C'est totalement, tout est empirique maintenant.
Si c'est vrai que la musique influence l'opéra,
si c'est vrai que la musique doit servir l'œuvre, s'il est vrai aussi que l'œuvre doit aboutir, parce qu'au cinéma, si elle n'a pas de succès, c'est toute l'œuvre postérieure qui est compromise. Et il faut bien que j'ai le sens de ma responsabilité dans ce travail au cinéma.
Naturalmente, perché questa preoccupazione? Se io mi lasciasse andare alle soluzioni le più facili, quelle che molte volte...
Le souci dont je parle, c'est un souci qui est dirigé dans plusieurs sens. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai le souci à la fois du public, ce qui ne veut pas dire que je me laisse aller vers les solutions les plus faciles, solutions qui, parfois, seraient celles qui plairaient le plus au public. Mais enfin, il faut avoir le souci du public, il faut aussi avoir le souci du producteur, et puis aussi le souci du réalisateur, et je dirais le souci de soi-même. Si je mesure et si je contrôle les musiques que je fais, c'est parce que j'ai des exigences de musicien, et puis c'est tout.
Giusta nella sua applicazione all'opera cinematografica, per
la
prima cosa.
La meilleure musique de film, il faut qu'elle s'accorde bien avec l'œuvre cinématographique. C'est le premier principe, c'est certain.
Per essere giusta in questa sua applicazione, anzi, non può essere giusta nella sua applicazione se questo lavoro musicale non abbia la forza di essere se stessa senza. Le fato photographique.
Mais elle ne peut s'appliquer, cette musique de film, ne peut s'appliquer de façon correcte à l'œuvre cinématographique que dans la mesure où elle a une existence propre et indépendante de l'œuvre cinématographique.
Jasmine Niel, on vient d'entendre une archive d'Ennio Morricone en 1981. En quoi ce compositeur a été important pour vous ?
Ah, ça me fait plaisir. Et en plus, je crois que c'est le morceau que je préfère d'Ennio Morricone. Donc, Ennio Morricone, j'ai une grosse culture de musique de film. Je sais pas pourquoi, mais dès le plus jeune âge, j'ai été plus sensibilisé aux musiques de film qu'aux films. Et puis après, je me suis intéressé aux films presque après coup. Et en particulier Ennio Morricone, parce que je trouve qu'il y a un récit dans sa musique. D'abord, il y a des instruments qui sont complètement dingues. Moi, je joue de la guimbarde dans cet album, mais justement, je pense que c'est grâce à lui que j'ai découvert cet instrument. Il y en a beaucoup dans le clan des Siciliens, mais dans toute sa musique, des flûtes, énormément de flûtes qui imitent des animaux, des bruits de voix. Il y a une orchestration complètement incroyable. Il est allé chercher l'utilisation de tous les instruments, et Je pense que ça fait déjà de lui l'un des compositeurs pour moi des plus riches en termes d'orchestrateur, parce qu'il y a vraiment une exubérance de possibilités dans chaque musique. Il va chercher des choses, et puis après il a une exécution, une réalisation de ses mélodies dans les arrangements qui sont brillants, et ça se marie énormément avec avec l'image, pardon. Ça donne un sentiment de joie, en particulier celle qu'on entend là. Il était une fois la révolution. Ça donne un sentiment de joie immédiat qui est complètement incroyable. J'étais justement hier à l'exposition sur les comédies musicales à la Philharmonie, et je me disais ça aussi. Il y a quand même dans tous ces compositeurs de la grande heure du cinéma des années 60, 70 et tout, il y a quelque chose une force de joie immédiate. Je sais pas comment ils font, parce que ça c'est assez génial. Puis moi aussi l'aspect très solennel et mystérieux de Ennio Morricone m'a toujours fasciné, et j'ai beaucoup travaillé sur ce compositeur.
Il dit que sa musique doit s'accorder avec l'œuvre cinématographique, et cette question de l'accord, en tout cas, elle est assez capitale dans votre travail. Et je pense notamment à ce que vous entreprenez depuis quelques années, qui est la forme du concert gastronomique. Qui est celle d'allier la musique et le repas et la gastronomie. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
C'est ma première formation. Je suis un ancien cuisinier, donc j'ai fait l'école hôtelière à Thonon-les-Bains, tout ça. Et je suis un fou des sauces, parce que justement, je pense qu'il y a quelque chose de magique là-dedans qui peut permettre de renforcer. C'est comme l'accord mets et vins, la sauce avec un poisson, une viande et un accompagnement. Et aussi la chimie qu'il peut y avoir dans une sauce, la manière dont elle peut monter, dont elle peut avoir une consistance, c'est complètement fou ce qui se passe dans la bouche avec une sauce. C'est un concentré de mille parfums, de mille émotions, pour moi c'est très proustien, ça, parce qu'il y a quelque chose qui va faire appel à des émotions lointaines, très très intérieures. Et dans l'accord musical, il y a quelque chose comme ça aussi. J'ai toujours été ému par des concerts qui allaient chercher dans ma mémoire des choses que moi je pensais pas qui existaient. Je me rappelle très bien d'un concert de musique improvisée d'un groupe qui s'appelle The Silencers, où en fermant les yeux, j'avais l'impression de revivre un moment d'enfance dans mon village, avec un clocher d'église, un bruit de feuilles qui bougent avec le vent de la forêt. Et je me suis mis à pleurer, parce qu'il y a une émotion immédiate. Et avec Morricone, il y a un truc comme ça qui va chercher un accord parfait entre des scènes évidemment de western de Sergio Leone, mais pas que. Il y a une sorte de rythme, d'alchimie et d'accord magnifique avec musique et image. C'est brillant, quoi. Il y a rien à dire d'autre que c'est brillant. Voilà.
Et vous faites vraiment le rapprochement entre la pratique de la gastronomie ou de la cuisine et celui de la musique et de l'orchestration.
Oui, parce que je pense qu'il y a, on parle des fois le même langage. Les mots sont un peu les mêmes. Il y a même des langages. On travaille sur un piano quand on est cuisinier. Voilà, il y a une batterie de cuisine. Il y a plein de choses comme ça. Ça, c'est pour l'aspect un peu marrant. Mais dans ces concerts gastronomiques, en fait, j'essaye de faire rencontrer deux mondes qui cohabitent pas normalement. C'est-à-dire un chef de cuisine et un compositeur de musique. Et j'essaye de faire en sorte que les deux composent à quatre mains un menu entrée, plat, dessert, avec trois mouvements musicaux qui soient vraiment très rapprochés en termes de longueur de son, longueur en bouche, acidité dans les orchestrations, mais acidité aussi dans le plat, le dessin, ce que ça peut raconter, les textures en bouche, ce que ça peut évoquer, certains instruments. J'en ai fait une il y a pas très très longtemps, un événement comme ça à l'abbaye de Royaumont, et le dessert c'était une poire, c'était donc un morceau en forme de poire, comme dirait Satie, et c'était introduit par un Claude Chamichi à la contrebasse, et j'ai trouvé dans ce plat, qui était une poire rôtie au miel avec des épices, et après il y avait des musiciens indiens qui ont rejoint la partie, il y avait vraiment une pertinence dans le propos, et c'est toujours assez mystérieux. Moi je pratique ça depuis 3 ans maintenant, et je suis assez ébloui par lorsque ça marche. Ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est assez bluffant. Et en plus, en général, les gens écoutent la musique pendant qu'ils voient l'assiette se dresser. Ensuite, on arrête la musique et il n'y a plus de musique quand ils dégustent. Donc en fait, ils ont encore le souvenir de ce qu'ils viennent d'entendre. Et maintenant, ils mangent. Donc ils arrivent à faire le lien, mais c'est il n'y a pas de prise d'otage là-dedans. C'est juste leur imaginaire qui travaille, comme au cinéma, comme en musique quand il n'y a pas d'image, comme plein de choses. On peut vraiment faire travailler son imaginaire et sa créativité intérieure. Et c'est une langue qui c'est un dialogue en fait. C'est vraiment ce genre de choses que vous disiez.
Quel projet vous avez envie d'aborder maintenant?
J'ai un grand projet pour 2020 qui va être une forme de symphonique mais de poche, avec l'équivalent symphonique mais réduit juste au pupitre, c'est-à-dire un quintet avant, un quatuor à cordes, piano, harpe, percussion, tuba, voilà. On va être 15 sur scène et je vais travailler sur la mer, parce que ça fait des années que je travaille sur cette notion. Une musique plus impressionniste et moins évidemment moins connotée traditionnelle, parce que ça va être avec des nouvelles notations musicales. Je suis en train de travailler sur des partitions très graphiques avec des cercles et des bulles de temps, des choses qui donnent moins d'infos aux musiciens, parce que ils vont tous être très improvisateurs, mais qui va leur permettre d'interpréter cette musique d'une manière beaucoup plus ouverte avec leur manière de la faire vivre. Et ça va être trois mouvements de réflexion sur la mer, voilà. Sur ça s'appelle Rayon Vert, et sur l'attente, sur l'éloge de la lenteur, quelque chose de très contemplatif. Et donc voilà, je vais monter ça en 2020 au théâtre Le Salmanazar à Épernay. Voilà.
Vous vous percevez plutôt comme un musicien ou plutôt comme un orchestrateur? Parce que finalement, dans tout ce qu'on évoque, là, que ce soit le projet de concert gastronomique ou cet album, c'est la dimension, en tout cas, d'orchestrateur, moi, qui me semble importante.
Ouais, et ben.
Le fait de mettre en présence plusieurs éléments, plusieurs personnes.
Ouais, moi, je suis très orchestrateur dans l'âme. Parce qu'en fait, j'aime bien démonter, soulever le capot et démonter toutes les choses dedans et de les analyser. Et quand je les remets ensemble, il y a un côté très analytique dans la musique que je compose, parce que j'aime bien qu'on entende tous les détails. Et donc je suis beaucoup plus orchestrateur que musicien.
Merci Jasmine Niel.
Merci à vous.
Votre dernier album Babel est sorti sur le label Bouddha Musique et vous serez en concert avec toute la formation des musiciens qu'on a évoqués le 22 mars. À Cézanne. Les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Ce soir au son, c'était Pierre Monteil. Lise Combe était à la réalisation. Merci à Luke Vauvillier, Anna Baron et Camille André qui pensent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast.